la même magie. Le 1er janvier, la retransmission du concert du Nouvel An en direct de Vienne. Diffusé dans 90 pays. Regardé par 45 à 50 millions de téléspectateurs. C'est l'un des événements majeurs de la planète musicale. Les places se vendent comme des petits pains. 35 euros la place debout. Les meilleures places sont à 1200, voire 6500 euros. Et chaque année, c'est la marche de Radetzky, de Johann Strauss père, et au beau Danube bleu, de Johann Strauss fils qui triomphe. Grâce à ces deux musiciens viennois, on a valsé, on valse, et on valsera toujours, dans le monde entier et dans toutes les classes sociales. Pourtant, à ses débuts, la valse fait mauvais genre. Elle scandalise même, mais très vite. Elle va devenir synonyme de joie de vivre, de bonne humeur, de fantaisie, mais aussi d'élégance et de charme. Elle va même devenir la carte de visite de la ville de Vienne. Et cela grâce au Strauss, Johann Strauss père et Johann Strauss fils. L'archi à la main, nous allons voir les Strauss passer d'une valse à l'autre, mais aussi d'une femme à l'autre. Et avec son beau Danube bleu, nous verrons par quel hasard Johann Strauss fils va être amené à écrire ce qui deviendra le second hymne national de l'Autriche. Quand il le compose, il est loin d'imaginer que cet opus 314 va charmer le monde entier. Qu'il va devenir une rengaine et même une musique de film. Et pourtant, lors de sa création, l'œuvre est un peu perdue dans un concert de 5 heures donné à Vienne. Nous sommes le 15 février 1867. Il est 22h30 et c'est l'heure H de notre histoire. De paillettes, de champagne, de séduction, de valseuses aux regards enamourés. Et cela grâce à la dynastie des Strauss, couronnés à jamais les rois de la valse de Vienne. Pourtant, on ne peut pas dire que ces rois de la valse aient eu une enfance de roi. Loin de là. Pas de luxe, et au départ, pas de chance. La dynastie de ces musiciens prend naissance dans un quartier au nord de Vienne, pas encore rattaché à la capitale, la Leopoldstadt. Quartier médiocre, baigné par les eaux sales du fleuve. En fait, c'est comme une île enserrée par les bras du vieux Danube, qui n'est pas apprivoisé à l'époque. Le grand-père de l'auteur du beau Danube bleu se nomme Franz Strauss. Il tient avec son épouse Barbara une modeste taverne fréquentée par les flotteurs et les bateliers du fleuve. Plafond bas, petite salle éclairée de quinquets, clientèle prolétaire. Le fleuve vient border la gargote et la baigne d'odeur repoussante. Il faut dire que le Danube n'est pas souvent bleu. Et de plus, qu'il est tristement célèbre pour ses redoutables inondations qui dévastent le quartier. Mais Franz, le grand-père Strauss, lui doit sa clientèle qui vient se mettre au chaud et se saouler de bière ou de vin. Tout ça est maussade, besogneux. Barbara fait le service sans sourire. Franz est un mélancolique porté sur l'alcool. Les affaires marchent mal. Et pourtant, ils doivent de temps à autre se payer quelques plaisirs brefs, car c'est dans cette atmosphère que naît, le 14 mars 1804, le petit Johann Strauss, que nous appellerons désormais Johann Strauss père. Malheur va s'abattre sur cette famille. Le petit Strauss perd sa mère et aussitôt, le père trouve à se remarier. Ça ne va pas éclaircir l'ambiance de la taverne. Franz va de plus en plus rêvasser devant les flots du Danube. Et un soir de 1816, il se jette dans le gris du courant. Voilà le petit Johann sans père ni mère. Il a 12 ans. On pourrait croire que ce deuil va désespérer sa belle-mère. Au contraire, on va se marier et se remarier souvent chez les Strauss. La belle-mère épouse un certain monsieur Golder, qui va reprendre en main la taverne. Il est l'inverse du défunt mari. Il apprécie la plaisanterie, le rire et surtout la musique. Il sera la chance du petit Johan. Il va l'aimer comme son fils. Il va ensuite engager des musiciens ambulants pour réjouir l'atmosphère de la brasserie. Dès lors, l'enfant va vivre au son des mélodies populaires. Ses oreilles vont vibrer aux sonorités du violon, du violoncelle, de la sitar. Pour lui, ce sera une immersion qui va devenir magique. Mieux, un jour, pour la fête du Bamba, son deuxième père lui offre un violon. Oh, pas celui d'un luthier italien, non. Non, un instrument bon marché, une sorte de jouet. Ce cadeau va bouleverser la vie du petit Johan. Bien sûr, le son est un peu plat, les crins de l'archet sont un peu trop épais. Mais des sons naissent sous ses petits doigts et pour lui, cela illumine son enfance. Les musiciens engagés par Goldor lui montrent les gestes qu'il faut faire pour qu'apparaisse la magie sonore du violon. Tout heureux de pouvoir faire glisser ses doigts sur les quatre cordes, le petit Johan s'initie très vite. Mais très vite aussi, il en veut plus. On raconte même qu'il va aller jusqu'à vider dans les ouïes de son petit violon les fonds de bière que laissent les mariniers sur les tables. « Génial, dit-il. Mon instrument sonne plus rond, moins sec, moins aigu. » Le gamin reproduit alors les mélodies qu'il entend dans la taverne familiale. C'est devenu sa seule occupation, sa seule passion. Toutefois, son tuteur de beau-père exige qu'il apprenne un métier. Il envoie donc le garçon de 13 ans faire son apprentissage chez un relieur à Leopoldstadt. Et un jour, c'est la panique. Johan s'enfuit de l'atelier, emportant son violon dans sa fugue. Et il ne rentre pas. Fugué à 13 ans, avec un violon. Le père Golder a compris. Ce gamin-là, il est fait pour la musique. Et il lui donne sa deuxième chance. Des leçons de violon, d'accord. Mais en échange, il doit continuer dans le métier de relieur où il devient ouvrier qualifié. Mais c'est le violon qui le motive. Il fait des progrès incomparables. Un an plus tard, il est engagé dans un orchestre professionnel qui se produit dans une rutilante salle de bal au cœur de Vienne. Il faut dire qu'à Vienne, de nouveaux bals s'ouvrent chaque mois. Le jeune Johan y fait son apprentissage. Il innove même. Ainsi, il décide de jouer en tenant son violon le manche en l'air. Puis, il propose des variations, invente des broderies saluées par le public. Il devient presque une vedette. En 1823, il entre comme altiste dans le sextuor d'un certain Lanner. Et c'est là qu'il va vivre une expérience décisive. Car Lanner introduit dans les programmes de son petit orchestre une danse nouvelle. Elle est apparue dans la région du Haut-Danube, semble-t-il, à proximité de la forêt noire. C'est une danse populaire qu'on nomme Landler. Mélodie naïve, toute simple. Un rythme dansant à trois temps qui tombe dans l'oreille. Et ça donne 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et c'est encore grâce au Danube. Car cette musique est arrivée à Vienne par le fleuve. À l'époque, il y a sur chaque bateau un petit orchestre. De violon, une sitar, une contrebasse, parfois ce nouvel instrument nommé la clarinette. Et quand il faut escale à Vienne, pendant qu'on décharge les bateaux, les artistes, eux, vont se faire un peu d'argent dans les buvettes, comme celle où est né le petit Johan. C'est ainsi que la valse a fait son apparition dans la capitale des Habsbourg. Bien sûr, on a dû lui trouver un autre nom, et comme les danseurs s'élançaient et se mettaient à tourner sur les parquets cirés des salles de bal, on a pensé au verbe « valsen », qui signifie « tourner en cercle ». Pour créer le mot « valse », le mot était né. La valse aussi, et pour toujours. Petit à petit, la nouvelle danse enflamme tout Vienne. On ouvre de plus en plus de salles de bal, de plus en plus luxueuses. C'est justement à ce moment idéal que Johann Strauss-Père commence sa carrière de violoniste. Car entre 1815 et la révolution de 1848, Vienne jouit d'une période insouciante. Qu'y a-t-il donc dans l'atmosphère de cette capitale qui la rend si légère et si raffinée? On y trouve un mélange unique de désinvolture, de détachement, d'allégresse, de gourmandise. de penchant au plaisir et de sens de la fête. Ajoutez à cela l'insouciance de la valse et vous comprendrez que Johann Strauss père coïncide parfaitement avec cette période heureuse. On y ouvre des salles de bal, mais aussi des salons de thé. On se délecte des strudels aux pommes tièdes de chez Dummel. On y déguste le gâteau au chocolat de chez Sacher. La vie est belle. Les fêtes durent jusqu'au petit matin, quand les couples s'éparpillent et disparaissent dans des rires amoureux. Mais cela n'est pas du goût de tout le monde. Pour certains, la valse est un scandale. C'est la danse du démon. Une vraie perversion. Et nous allons voir qu'au nom de la morale, une certaine partie de la population va déclarer la guerre à la nouvelle danse à la mode. Il vous suffit de réécouter une valse de Strauss. Avant d'entendre le début de la valse, il y a une courte introduction, comme les préliminaires en amour. C'est durant ce prélude que le danseur a le temps de choisir, d'aller chercher sa cavalière. Il lui prend la main, les fleurs lui entourent la taille. C'est d'une audace inouïe pour l'époque. Et c'est pas fini. Deux personnes qui jusqu'ici ne se connaissent pas ont soudain le droit de nouer leurs mains, de s'enlacer. L'homme serre la femme à la taille et elle pose sa main gantée sur l'épaule de son danseur. Oui, monsieur. Oui, vous avez raison, un vrai scandale. Puis ils s'élancent sur la piste et après, c'est tout aussi choquant. Ils mêlent leurs regards, peuvent se parler, se manger les yeux. Quand la cadence à trois temps les emporte, il semble s'accoupler. Non, c'est inconvenant. Car jusqu'à maintenant, dans le menuet, le quadrille, le galop ont resté séparés. Ici, on forme un couple. Avant, les danseurs regardaient la salle. Cette fois, ils se regardent. Ils sont seuls au monde. La valse permet une libération physique, morale et sentimentale. Et c'est justement pour cette raison qu'elle a des détracteurs. Scandalisés, des protestants allemands sont outrés. Des ligues puritaines s'insurgent au nom de la morale. Pour d'autres, cette étreinte dansante est à proscrire au nom de l'hygiène. Un médecin de Hambourg publie un pamphlet intitulé « La preuve que la valse est la principale cause de la faiblesse de corps et d'esprit de notre génération ». Un siècle plus tard, on dira la même chose du rock'n'roll. La guerre est donc déclarée contre la valse. Les dévots s'en mêlent. Ils condamnent, je cite, « cette indécence et abominable façon des hommes de faire tourner les femmes, surtout quand elle a pour résultat de faire voler les robes en dévoilant ce qui devrait rester caché. » Cette fois, c'est la guerre contre les jupons et les froufrous. Des aristocrates, des membres de la haute société s'indignent aussi, mais pour d'autres raisons. Ils découvrent que la valse élimine les barrières sociales. On valse au palais impérial de la Hofburg, aussi bien que sur les places de village. Cette mixité sociale est à proscrire, s'écrit-il. Ils s'offusquent de voir qu'on valse en habit, en robe longue, en uniforme, mais aussi en tenue paysanne. Quel affront porté à leurs privilèges. Un scandale à nouveau. Mais les tartuffes ligués contre la valse perdent vite leur combat. Il est trop tard. La fièvre valseuse a envahi Vienne et l'Europe. Les mères entraînent leurs filles. De plus, c'est une excellente agence matrimoniale. C'est aussi une élégante manière de séduire. Et vous vous doutez que Johann Strauss père ne se prive pas d'inviter quelques jolies demoiselles pour une dernière danse quand la brasserie où il joue va fermer ses portes. En plus, aux yeux de la valseuse, il a le prestige de la vedette. Elle se sent aimée par le maestro en personne. Aimer, mais Strauss ne fait que ça. Danser pour lui, c'est deux corps en permanence face à face, le temps d'une valse ou de plusieurs. Tous les soirs, il tombe amoureux. Les femmes ont au fait de le remarquer dès qu'il empoigne son violon et en tire de suaves mélodies. Oui, il plaît aux femmes, oui. Il court le cotillon. Oui, il multiplie les conquêtes parmi les coquettes venues l'applaudir. Il est devenu une vedette. En 1825, il publie sa première œuvre. Et l'année suivante, fonde son propre orchestre. Le public s'agglutine autour de ses musiciens qui jouent au Prater. Les aubergistes apprécient ces jeunes artistes bien mis et talentueux qui plaisent à la clientèle. Et surtout ce Johann Strauss, au physique vigoureux, ce beau ténébreux qui regarde les femmes avec passion et envie. Elles adorent ça et se pressent au pied de l'estrade. Il dégage un tel charme irrésistible. Tant et si bien que la fille de l'aubergiste, Anna Streim, tombe enceinte de ses œuvres. Il n'a vraiment pas du tout envie de se marier, mais contraint par le père, il s'exécute en juillet 1825. Leur premier enfant naît en octobre. Il était temps de se marier. Le jeune père décide que ce premier enfant se prénommera Johann, comme lui. Avec son épouse légitime, il aura 6 enfants, mais bien vite. Il va déserter le logis conjugal, y effectuant des passages de plus en plus brefs. En fait, il mène une double vie, car il a succombé au charme, entre autres, d'une certaine Émilie, jeune modiste qui sait y faire. Laide, mais très habile au lit. Elle vit dans un quartier mal famé, dans un logis misérable, où elle ne cesse de lui soutirer de l'argent pour ses colifichets et ses robes affriolantes. Évidemment, Émilie tombe enceinte. Mise en demeure de choisir par son épouse Anna, Johann père finit par opter pour la modiste. Il déménage et s'installe dans le taudis. Eux aussi auront 6 enfants. Le musicien va désormais traîner sa réputation de géniteur dans tout Vienne. Ce grabuge érotique n'entame en aucun cas sa réputation grandissante de musicien et de compositeur. Vous vous souvenez de son ami Lanner avec qui il a débuté, Eh bien, à eux deux, ils vont codifier la valse. D'une simple danse de campagne, ils vont faire une œuvre orchestrale. La valse va ainsi passer de salle de bal à la salle de concert. Elle va devenir une composition symphonique avec une introduction et une conclusion. Mais Lanner meurt très jeune. Désormais, Strauss père a le champ libre pour triompher. Sa carrière s'accélère d'une manière vertigineuse. Avec son propre orchestre, il est nommé directeur des bals de la cour, entame des tournées à l'étranger, triomphe sur toutes les scènes en Hongrie, en Allemagne, aux Pays-Bas, à Bruxelles, à Liège, et surtout, à Paris, où il joue devant le roi Louis-Philippe et Hector Berlioz. Seulement voilà. Voilà qu'un concurrent va apparaître soudain, et ce sera le plus inattendu. Johann Strauss a donné son propre prénom à son fils. Fatale erreur. Car tel père, tel fils. Le jeune garçon, pendant la percée et le triomphe de son père, grandit bien éduqué par Anna, sa mère. Cette dernière, cultivée, raffinée, va s'en servir pour se venger de l'épouvelage. Son fils, ce sera son pion. Celui qu'elle va pousser pour contrecarrer la carrière du mari adultère. Elle va mettre un violon dans les mains du jeune Johann, et ce dernier va se révéler très doué pour la musique. L'hérédité, probablement. Elle va le confier à d'excellents professeurs, et très vite, le jeune Johann va focaliser son apprentissage sur la valse. Ce rythme à 3 temps est dans ses gènes. Un jour, le père passe reprendre des affaires au foyer familial qu'il a déserté. Et que voit-il ? Son propre fils avec un violon. Sacrilège ! Il hurle, lui arrache l'instrument des mains, le frappe. La mère s'interpose. Il devient hystérique et lui interdit toute carrière musicale. Pire, il va envoyer son impresario faire le tour de toutes les salles de bal viennoises afin d'obliger leur propriétaire à en refuser l'accès à son musicien de fils. Désormais, c'est la guerre des égaux et le conflit des générations. Johann Strauss fils décide de rivaliser avec son père. Pour lui, Il fait coup double, car à ses yeux, il venge sa mère. Il est devenu un excellent violoniste. Il prépare en secret un programme de valse, rassemble des musiciens, cherche des salles dans les faubourgs pour contourner l'interdit paternel. Très vite, il se fait un nom. Son père, le Napoléon de la valse, fulmine, ulcéré par cette audace. Désormais, Vienne assiste à un conflit familial sur un air de violon. Le fils rebondit très vite, fait ses débuts dans un casino proche du château de Schönbrunn. Et le lendemain de son premier concert, il a la joie de lire à la une d'un journal « Bonsoir Strauss père, bonjour Strauss fils ». C'est gagné, se dit-il. Pas encore. Pas encore, mais il est très malin. Il sait que son père demeure le roi de la valse pour les Viennois. Alors il s'esquive et part chercher la gloire ailleurs, lors d'une tournée de concert dans tout l'Empire austro-hongrois. Soudain, en 1848, éclate la révolution. Le conflit fils-père va se radicaliser. Vienne s'insurge contre le régime dictatorial de Metternich. La foule réclame des réformes. La jeunesse manifeste. Les Viennois pillent l'arsenal. Ils assassinent le ministre de la guerre. La troupe riposte. Metternich démissionne. Il s'enfuit. Ce n'est pas une révolte passagère. Non, c'est une lame de fond. L'université est à la tête des combats. La ville se hérisse de barricades. Et le père et le fils Strauss